Bonjour à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1, une nouvelle chronique, aujourd'hui consacrée aux aides au pilotage qui sont de plus en plus restreintes. Déjà, on en parlait l'année dernière et justement, ce podcast fait écho à un autre podcast de l'année dernière. Je ne me souviens plus du nom du podcast, mais il doit être trouvable relativement facilement. En tout cas, je parlais des aides au pilotage déjà, puisque l'année dernière, vous le savez, c'est là qu'il y a eu vraiment les premières décisions pour restreindre, on va dire, les aides au pilotage provenant du muret des stands. Très important de préciser ça, provenant du muret des stands et donc des ingénieurs. Limiter les messages radio parce que, selon la FIA, c'est très négatif et c'est mal perçu par les spectateurs. Et je me souviens avoir dit d'ailleurs à ce propos que forcément si la FIA admet ça, eh bien ça va encore plus, on va dire, augmenter le flux de critiques. Et ça a eu cet effet, hein, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et c'est bien triste. Mais bon, c'est la logique de la FIA de ne pas faire les choses comme il faut en termes de communication sur son sport. Et voilà. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, le fait est, il faut l'accepter, c'est que il y a eu une décision, c'est de tout simplement restreindre les messages provenant des ingénieurs. Alors l'année dernière, il y avait deux discussions. Tout d'abord, autour des messages radio concernant la performance des pilotes. Ça a été accepté par tout le monde et ça a été mis en application assez rapidement. Et on a vu finalement, ça a pas eu de grandes conséquences, de mauvaises conséquences, ce qui est plutôt intéressant. Et au contraire, les pilotes n'étaient plus à demander, ne sont plus à demander où est-ce que je devrais être meilleur ne sont plus à demander tels des enfants à leurs ingénieurs où ils en sont au niveau de leur pilotage. Et c'est à eux de voir où il vaut mieux freiner. Et où il vaut mieux accélérer, par exemple, c'est à eux d'analyser. C'est mieux, je trouve, surtout en situation de course, où là, il faut vraiment avoir une analyse en temps réel, et on ne peut pas, compter sur l'analyse des ingénieurs. C'est plutôt bien, parce que comme ça, les pilotes ne sont pas en gestion un peu passive, on va dire, de leur façon de piloter. Ils doivent vraiment avoir une gestion active. Et ça, c'est une avancée positive. Et il n'y a pas eu de soucis, pas eu trop d'arnaques au niveau des messages des murets des stands. Évidemment, de façon détournée, c'est sûr que les ingénieurs arrivent à faire passer certains messages à leurs pilotes. Mais au niveau du pilotage pur, pas trop, hein. Après, on voyait avant les pilotes les plus efficaces. On voyait les moins efficaces, maintenant c'est un peu pareil, mais c'est vrai que ce point-là apporte vraiment plus d'authenticité à la performance des pilotes, puisque c'est eux qui pilotent les monoplaces. Et d'autre part, on parle également de restreindre les messages radio concernant les performances des voitures. Mais là, je vous le rappelle, c'était d'ailleurs le podcast porté en majorité là-dessus l'année dernière, si ma mémoire ne me fait pas défaut. La performance concernant les monoplaces, ça faisait grand débat et j'avais déclaré que c'était trop flou l'année dernière. Les choses étaient trop floues et que ça pouvait impliquer de ne plus du tout avoir de message de telle sorte qu'il y ait des abandons assez bêtes, puisque le muret des stands n'aurait pas pu avertir son pilote d'un problème critique sur la voiture. D'un quelconque problème qui peut entraîner un abandon et donc toute la télémétrie qui demande beaucoup de sous ne servirait quasiment à rien à part au débriefing, mais sinon ne servira à rien en course et ce serait bête de ne pouvoir régler un problème de fiabilité qui peut être réparé en course au lieu d'abandonner. Et en effet, l'année dernière, dans la rédaction de la FIA, c'était pas bon, c'était mauvais. J'étais pas le seul à avoir émis cette hypothèse, à avoir émis cette critique, ce doute, puisque souvenez-vous, dans le paddock, il y avait eu également quelques voix qui s'étaient élevées également contre ça. Cette année, un an plus tard, on se place vraiment un an plus tard, presque un an pile, hein, c'est possible que ce soit presque un an pile. Et on parle donc en plus des messages concernant les performances des pilotes, il y a également les messages au départ et les instructions des ingénieurs pour la procédure de départ qui ont été amoindries à partir de Spa et qui vont l'être encore plus la saison prochaine pour laisser plus pour laisser totalement le contrôle aux pilotes ou quasi totalement le contrôle aux pilotes sur leur départ, ce qui est bien normal et ils en sont capables. Ils ont tellement répété la procédure un certain nombre de fois qu'ils sont capables de faire les choses. Après, ils ont juste à, on va dire, à juger la situation de la piste, la température ambiante et tout. Ils ont juste à évaluer ça pour ensuite déterminer les meilleurs réglages pour ne pas patiner au départ et faire un bon départ. Bon, après, les pilotes en sont capables. On a vu Raikkonen, ça l'a perturbé au dernier Grand Prix à Monza. Il partait pourtant en première ligne et malheureusement, une erreur de sa part, il l'a reconnu finalement, une erreur de sa part l'a contraint à démarrer, mais un peu tard, et il s'est retrouvé un bon dernier à l'abord du premier virage, ce qui était bien dommage. Donc, c'est plutôt pas mal ce nouveau règlement. Et ensuite, il y a également, voilà, on remet sur le tapis cette année les messages concernant la performance des monoplaces. Ces messages vont bien être interdits, tout simplement. Et au lieu de faire une liste des messages interdits, la FIA a fait une liste complète. En fait, elle a complété sa liste de messages autorisés. C'est-à-dire, on a la liste de messages autorisés concernant la performance des pilotes. Donc, par exemple, les détails sur les temps autour ou sur les temps par secteur sont autorisés. Les détails sur les temps autour d'un concurrent. L'écart par rapport à un concurrent pendant une séance d'essai libre ou pendant la course. Des messages de type attaque fort, attaque maintenant, tu vas te battre contre X, etc., etc., sont autorisés, etc., etc. Il y a plein de messages quand même qui restent autorisés, mais c'est des messages de logique, on va dire, hein. Des messages d'information, des messages qui vont dans le sens de la course. Si le pilote n'a pas ces informations, on peut passer à côté en tant que spectateur et les pilotes peuvent passer à côté de batailles. Donc, il faut bien à un moment quand même accepter la technologie. Et là, elle n'entrave pas la course, bien au contraire. Et donc, on rajoute à ça quelques nouveaux messages. Donc, je vais vous les dire, ces messages qui sont autorisés. Une indication d'un problème critique sur la voiture, par exemple une crevaison ou des dégâts. Une indication d'un problème sur la voiture d'un concurrent. La consigne de rentrer au stand pour réparer la voiture ou pour abandonner. Les informations données par les commissaires, donc tous les drapeaux ou départ avorté, ou toute autre instruction similaire de la part de la direction de course, piste humide, huile ou débris dans certains virages. Donc ça, c'est vraiment pour la sécurité, hein. C'est bien normal qu'on informe les pilotes de ça. Ce serait une ineptie totale qu'on n'autorise pas ça. Et enfin, la consigne de dépasser ou de laisser passer un ou plusieurs pilotes. Voilà, ça c'est apparemment ça concerne, c'est les nouveaux messages. Alors, celui qui m'intéresse, c'est surtout le premier. Une indication d'un problème critique sur la voiture, par exemple une crevaison ou des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'un problème critique? En droit, dans le milieu juridique, les termes doivent être précis et définis. Qu'est-ce qu'un problème critique selon la FIA? Il faudrait vraiment leur demander, il faudrait vraiment que ce terme soit défini, parce qu'il peut porter à confusion et on peut revenir à une situation de l'année dernière où, il y a des problèmes qui ne sont pas critiques, mais qui le deviennent et tout d'un coup qui provoquent un abandon parce qu'il fallait les traiter quand ils étaient, on va dire, relativement mineurs et ensuite ils ne peuvent plus être réglés. À voir si l'interprétation de cette règle va être, on va dire, un petit peu large ou pas du tout. En tout cas, la FIA apporte des précisions concernant son objectif et ça peut nous faire plaisir. Ça peut être très positif. Alors, je cite le document qu'a envoyé la FIA aux différentes écuries. L'objectif sera de restreindre le flux de données en temps réel aux seuls signaux essentiels pour faire rouler la voiture. Toutes les autres informations, donc les canaux non essentiels, devraient seulement être, on va dire, être identifiés, être enregistrés dans la mémoire de la voiture. Voilà, sans pouvoir communiquer. Donc voilà, ce qui est intéressant surtout, c'est ce, comment dire, ce flux de données en temps réel, enfin les signaux essentiels pour faire courir la voiture. Donc normalement, les messages radio dans l'objectif final de la FIA, son objectif, on va dire, juridique et normatif, c'est que les messages concernent seulement les signaux essentiels pour faire courir la voiture. Donc c'est ce que j'ai dit, ça correspond aux messages critiques. Et donc si on interprète les messages critiques comme ça, en gros, tout message que la voiture délivre, toute donnée de la voiture qui indique qu'il y a un problème qui pourrait faire abandonner la voiture, eh bien, l'ingénieur pourra informer son pilote sur le muret des stands. Je l'interprète comme ça et j'espère sincèrement que c'est ça. Je ne veux pas voir d'abandon que j'appellerais des abandons débiles et évitables. Mais là, vraiment, c'est très intéressant. Puisque le pilote, on lui donne, on va dire, le pouvoir de bien sentir sa voiture. Par exemple, de se dire, ah là, il y a mon moteur, je le sens pas très bien. Là, l'accélération, je le sens pas très bien. Je vais modifier ci ou ça sur le volant. Mais ça va améliorer les choses. Ça, ok, la performance de la voiture. Ça, ok, c'est des problèmes mineurs, c'est même pas des problèmes à proprement parler, c'est la performance. Voilà, et même pour les problèmes mineurs, peut-être que le pilote pourra régler de lui-même. Mais voilà, ensuite, les problèmes un peu plus majeurs, ou les problèmes qui en tout cas pourraient engendrer un abandon, là, normalement, les ingénieurs auront le droit de communiquer au pilote. On avait cette crainte la saison dernière, on l'a beaucoup moins cette saison, et évidemment, il faudra attendre 2016, puisque ce nouveau règlement est prévu pour 2016, donc il faudra vraiment attendre 2016 pour avoir une vision très claire de l'application par la FIA et par la direction de course comment dire, de cette nouvelle règle, tout simplement. Voilà, il faudra vraiment attendre la saison prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Le prochain podcast, en début de semaine prochaine, normalement, sera dédié à Marussia une nouvelle fois. Désolé, je reparle de Marussia, mais l'activité le veut, puisqu'on va avoir une nouvelle tête ce week-end dans un baquet Marussia, en l'occurrence Alexander Rossi. Et il faut bien en parler de comment il a été dans le paquet et reparler, faire le lien avec le podcast dans lequel je parlais de Marussia. Et d'ailleurs, j'avais bien fait, je le redirai, mais j'avais bien fait de faire attention et de mettre le holà en disant attention, c'est une petite team, il faut toujours faire attention avec les petites écuries, même s'ils déclarent ceci ou cela, il faut faire attention. Et j'espère que du coup, vous avez repensé à ce podcast en voyant l'annonce, si vous l'aviez vu, et si vous ne l'aviez pas appris avant ce podcast. Si vous l'aviez appris avant ce podcast, pardon. Bref, à la semaine prochaine. Bon Grand Prix à tous, hein, bon Grand Prix à tous ce week-end. On parle beaucoup pour ce week-end de comment il s'appelle, de Lewis Hamilton, puisque s'il gagne, eh bien, il y aura une statistique marrante de autant de victoires qu'Ayrton Senna en autant de grands prix, tout simplement. Alors au niveau des chiffres, c'est assez bouleversant au niveau des chiffres, ça c'est sûr. Au niveau de la statistique pure, c'est vrai que ça c'est très touchant, puisqu'en plus Senna est l'idole d'Hamilton, donc c'est d'autant plus fabuleux en termes de statistiques. Mais voilà, il faut pas s'enflammer, c'est que de la statistique. Et la statistique, sans le concret après, ça ne veut rien dire. Et en l'occurrence, là, on a plus de 20 ans d'écart entre les deux pilotes, avec pas du tout les mêmes monoplaces à piloter, pas du tout le même contexte, etc., etc. Donc, les deux pilotes, le pilote brésilien comme le pilote britannique, sont de fantastiques pilotes. Hein. Fantastiques pilotes. Hein. Le nombre de podiums d'Hamilton, et aussi, oui, il n'y a pas que le nombre de victoires, il y a le nombre de podiums également, très proche entre les deux, et il y a d'autres stats où ils sont vraiment très proches en ce moment là, en autant de grands prix, c'est assez fou. Enfin bref, les deux sont d'immenses pilotes, mais chacun dans leur époque respective, hein. Ne nous amusons pas les comparer en disant qui était meilleur que l'autre. Non, on peut regarder à chaque époque comment ils ont agi, comment ils ont piloté, à quel point ils étaient forts, mais de les comparer, c'est en fait. Quand on essaye de comparer deux pilotes comme ça, quand les les journalistes, les médias veulent comparer deux pilotes comme ça. En fait, c'est pour le buzz pur, quand ils abusent, et il y en a qui le font en ce moment, évidemment, hein, toujours, hein, toujours faire du clic, toujours vendre, évidemment, mais il y aurait d'autres moyens. Bref, je vais pas revenir sur ce débat, hein, j'y reviens un peu trop souvent d'ailleurs, mais bon, c'est normal, hein, j'analyse la F1, donc je suis obligé de parler également des autres personnes qui tentent de l'analyser ou qui tentent de faire quelque chose avec, en tout cas. Bref, soit c'est pour le buzz, je ne détaille plus, soit c'est des passionnés de la F1 qui veulent comparer par pur fantasme. Oui, parce que, évidemment, c'est notre fantasme à tous de voir, par exemple, un Hamilton face à un Senna, un Schumacher face à un Senna, un Senna face à un Fangio. C'est dans le fantasme de beaucoup de passionnés, hein, de rejoindre deux pilotes d'histoire, de les faire affronter. Malheureusement, c'est impossible. C'est impossible, évidemment, pour des raisons assez compréhensibles. Donc voilà, il faut bien signaler ça. Mais en tout cas, statistiquement parlant, c'est très intéressant, ça c'est vrai. Hein. Compte tenu de, on va dire, du lien entre les deux, du lien très indirect, hein, c'est juste un lien de, on va dire, de passion, enfin de, comment dire, d'idolâtrie de la part d'Hamilton envers Senna. Et c'est pas mal. Donc, si Hamilton remporte le Grand Prix ce week-end sur le podium, à mon avis, ça sera émouvant parce que voilà, il l'a dit en plus, il a dit Hamilton, il a dit si j'égale Senna au nombre de victoires avec le même nombre de Grand Prix et tout, ça sera quand même assez émouvant, c'est sûr. Bah, en termes de chiffres, ça l'est évidemment parce que ça veut pas dire que Hamilton, attention, ça veut pas dire qu'Hamilton se croit hyper chaud et se croit meilleur que Senna. Je crois qu'il ne se croira jamais meilleur que Senna. D'ailleurs, il l'a déjà rappelé en interview que les deux époques sont différentes. Mais voilà, c'est juste en termes de chiffres, c'est vrai que les deux se rejoignent, donc forcément, ça fait quelque chose. Hein. C'est comme d'ailleurs bah, quand Schumacher avait égalé, je crois, le nombre de victoires de Senna, d'ailleurs aussi. Et souvenez-vous, il y avait une conférence de presse d'après-course assez émouvante. Bon là, ça l'était d'autant plus que Schumacher avait couru contre Senna pendant ses jeunes années en Formule 1. Voilà, c'est tout pour moi. En attendant le prochain podcast, eh bien, il y a le Grand Prix de nuit à Singapour et c'est la parfaite occasion pour que tous ensemble vivons notre passion. À bientôt.